cagoule. Soule pas ma poule, non, m'ouvre pas la bouche. Couvre, trace ta route, tu te boufferas ma soude. J'ai le groove, la gadou et un crew. J'lag ma boule, on pousse les poux. Car va pousser pour mes loups, barfa rouge. J'me fous de coups, pas ma soude. Détruire le pouvoir, la foule de petits bourgeois à court. En quête de leader, j'rappe comme une grosse paf dans ta tête de videur. Voilà une bête de rimeur.
Vous êtes bien sur les bandes continues de Radio Canu, le rap. Dans l'ordre, on a écouté un extrait de la mixtape Cornetape de Mixdown Prod.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
La première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter là. Faut...
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis. Les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures. Je suis chômeur. Je suis pointé. Ok, moué.
Bonjour.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h03 et c'est l'heure des infos.
Et du coup, on commence avec les titres.
Et à l'international, on ira au Chili pour parler de la nouvelle assemblée constituante avant de faire un point sur la situation en Palestine. Et enfin, on prendra la direction du Sri Lanka où sévit l'une des plus grandes catastrophes écologiques de l'histoire du pays.
Au national, on parlera d'une patronne qui a commandé l'assassinat d'un syndicaliste, oui, en France. Et on finira sur un retour sur la manif toute aux frontières.
Et pour finir, au local, on aura un témoignage tiré du CRAD de Saint-Exupéry sur une grève de la faim en cours.
Mais tout de suite, les brèves.
On aura une interview aussi, non?
Et oui, on finira avec une interview d'ailleurs.
Oui, une interview des AESH mobilisés dans le cadre de la grève nationale qui a eu lieu cette semaine.
Et tout de suite, avant les brèves, la citation de la semaine.
Et oui, elle nous vient de Hubert Védrine, et donc, qui nous a dit « Le Rwanda est devenu le prétexte pour tous les gauchistes de la place de Paris de régler leur compte avec François Mitterrand, la 5e République, la France comme puissance. » Même ce grand gauchiste d'Olivier Faure, le même qui proposait un droit de regard sur la justice au keuf, s'est ému de cette déclaration d'Hubert Védrine. On rappelle que Védrine était secrétaire général de l'Élysée au moment du génocide. Il avait accès à tous les documents et est en fait un des principaux artisans de la politique élyséenne durant le génocide au Rwanda, puisque Mitterrand était déjà très malade à l'époque. Il a lui-même participé à tous les conseils restreints qui ont décidé des interventions au Rwanda. Donc on comprend bien la position qu'il défend. Allez Hubert, les gauchistes te saluent, et pour les victimes de ta politique de mort, ni oubli ni pardon.
Et cette fois, c'est les brèves.
En France métropolitaine, pendant la durée de la trêve hivernale, au moins 756 expulsions de lieux de vie informels ont été recensées, ce qui représente en moyenne 532 personnes expulsées par jour. Si cette trêve ne concerne dans la loi que les expulsions locatives, ça fait beaucoup trop de gens remis à la rue pour une période qui avait été consacrée comme trop froide et trop meurtrière, suite à l'appel de l'abbé Pierre du 1er février 1954, qui s'alarmait de la mort d'une femme et de son bébé de froid dans la rue. Appel qui avait d'ailleurs été lancé à la radio sur les ondes de Radio Luxembourg. En ce moment, dans la rue, c'est aussi le Covid qui tue.
Et puis à Hong Kong maintenant, puisque vous le savez, le 4 juin 1989 marque la répression sanglante de la place Tiananmen à Pékin, où l'armée de Chine avait attaqué les étudiants et ouvriers qui occupaient la place depuis le 15 avril pour demander une réelle démocratie. L'OTAN estime à 7000 le nombre de morts lors de la répression de ce mouvement. Sa commémoration n'a bien sûr jamais été possible en RPC, mais à Hong Kong, chaque année, des dizaines de milliers de personnes se rassemblaient. Et ce, même l'année dernière, où le rassemblement avait déjà été interdit. Cette année, il est interdit encore une fois, mais donc après 32 ans, c'est la première fois où ce rassemblement n'aura pas réussi à avoir lieu. Plus de 7000 policiers ont apparté les rues et arrêté toute personne tentant de se rassembler. Une militante a même été arrêtée avant la tentative de rassemblement, seulement pour avoir annoncé qu'elle comptait y aller. Preuve malheureusement que Pékin réussit à contrôler à nouveau la ville.
Et le mouvement des intermittents et intermittentes et des chômeurs et chômeuses contre la réforme de l'assurance chômage se poursuit. Les intermittents et intermittentes et chômeurs-chômeuses mobilisés ont occupé ce vendredi à Paris la direction générale de Pôle emploi, refusant de partir tant que les revendications n'avaient pas été transmises au cabinet de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Objectif atteint.
Gloire à eux et elle.
Et puis, on ne manque décidément jamais d'imagination pour punir ceux qui fuient l'oppression et la misère. La dernière idée à vomir est celle de la Grèce, qui a installé jeudi dernier deux canons à son pour repousser les migrants. Ceux-ci peuvent atteindre 162 décibels, soit 42 plus que le moteur d'un avion à réaction. À ce niveau, les conséquences physiques sont migraines, vertiges, douleurs au sinus et surtout perte permanente de capacité auditive. L'arme est déjà utilisée dans plusieurs pays pour disperser des manifestants et parfois, elle finit par être interdite, comme à New York en 2018, car jugée trop dangereuse. Alors que le porte-parole de la Commission européenne aux migrations a nié toute implication de l'UE dans ce projet, arguant que l'Union européenne était humaine, nous lui rappelons qu'en plus de ses canons sonores, la Grèce est maintenant pourvue d'un mur en acier galvanisé de 27 km de long continu, avec caméra et mirador, s'élevant à 63 millions d'euros et qu'il a bien été financé par l'Europe.
Au Canada, la découverte des restes de 215 enfants issus des peuples des Premières Nations remet le pays face à l'atrocité coloniale du système des residential schools, les pensionnats utilisés comme une arme d'assimilation, d'acculturation et de christianisation par le gouvernement canadien en lien avec l'Église catholique et des missionnaires protestants au moment où le gouvernement canadien négociait des traités sur les terres appartenant aux Indiens. Pendant 150 ans, des années 1850 au milieu des années 1990, 150 000 enfants ont été arrachés à leurs parents et à leur mode de vie traditionnel pour être envoyés dans ces pensionnats où ils et elles ont été empêchés de parler leur langue et de pratiquer leurs coutumes, ont subi de nombreux mauvais traitements, des violences physiques et sexuelles qui ont parfois mené à leur mort, comme le montrent les restes d'enfants retrouvés la semaine dernière en Colombie-Britannique. On dénombre à environ 6 000 le nombre de morts des suites des mauvais traitements dans les pensionnats. Ceux et celles qui s'en sont sortis sont rentrés dans leur famille complètement acculturés et traumatisés. Ce système a dévasté des générations d'Indiens au Canada qui souffrent encore aujourd'hui de nombreux troubles psychiques et d'addictions, en plus des discriminations. Le gouvernement a appelé l'Église catholique à s'excuser officiellement pour le rôle qu'elle a joué dans ce système, ce qui paraît bien la moindre des choses pour ce véritable génocide culturel.
Et pour finir, on salue les quelques 600 travailleurs d'Amazon qui ont envoyé une lettre aux dirigeants de l'entreprise, Jeff Bezos et Andy Jassy, pour que celle-ci reconnaisse la souffrance du peuple palestinien et rompe tout lien avec l'armée israélienne. Cette lettre fait suite à celle des travailleurs de Google et d'Apple et on espère qu'elle en inspirera bien d'autres.
Gloire à eux et elle.
Et puis maintenant,
et tout de suite,
International.
Et on commence maintenant avec un sujet donc sur l'Assemblée constituante au Chili.
Oui, le Chili tourne enfin la page de la coalition post-Pinochet qui était dominée par le centre-gauche, la droite et les militaires. En effet, malgré une abstention qui frôle les 60%, ce qui est énorme, les 15 et 16 mai derniers ont été élus les délégués de l'Assemblée constituante, les maires, les conseils municipaux et les gouvernements régionaux. Après une décennie donc de démocratie autoritaire et ultralibérale, les résultats électoraux représentent une belle débâcle pour les partis de l'ordre composés de la droite chilienne Chile Vamos et du centre-droit traditionnel. L'idée d'une convention constituante était d'abord une stratégie de la part des partis au pouvoir pour canaliser le mouvement insurrectionnel d'octobre 2019 et notamment la grève générale de novembre, pour la canaliser donc en termes institutionnels. Mais il y a retour à l'envoyeur. Les résultats des élections sont un échec cuisant pour les partis traditionnels et inaugurent un nouveau cycle politique. C'est donc la première fois au Chili qu'un mouvement social aux composantes anticapitalistes accède à une position majoritaire dans un espace dont il avait jusque-là été relégué. Après la révolte destituante, vient donc l'Assemblée constituante. Celle-ci sera formée de 81 femmes, de 74 hommes qui auront à charge de rédiger une nouvelle constitution pour le Chili. Une occasion pour redéfinir la forme de l'État, le régime de la propriété privée, les droits sociaux, etc. Bref, cette victoire de la gauche pour partie radicale et indépendante et indigéniste peut avoir une valeur programmatique et stratégique dans la période qui s'ouvre. Mais il lui faudra pour ça d'abord redéfinir le cadre de décision, car pour l'instant, toute décision est soumise à une majorité supérieure à 67%, ce qui signifie que pour l'heure, il suffit d'un tiers des membres de l'Assemblée constituante pour exercer un droit de veto. D'autre part, l'Assemblée n'est pour l'heure pas autorisée à remettre en question les accords internationaux à cause d'un accord signé par les secteurs de la bourgeoisie quelques mois auparavant. Et si pas mal de nouvelles forces politiques sont représentées, comme la plateforme féministe transnationale, la communauté Mapuche, la Lista del Pueblo, directement issues du mouvement de révolte, d'autres, notamment issues des centrales syndicales, n'ont pas été élues. Sans doute que l'avenir de cette convention, qui va enfin piétiner l'héritage de la dictature, va dépendre d'au moins deux choses. D'une part, de la lutte pour l'hégémonie entre progressistes et gauche indépendante, d'autre part, du rapport de force entre débat interne à l'Assemblée et débordement populaire extérieur. Sans parler du danger des forces réactionnaires qui vont, on n'en doute pas, rapidement se restructurer pour passer à la contre-offensive. L'Assemblée constituante aura donc 12 mois pour abolir le système de retraite à base de fonds de pension, abolir la privatisation des services publics, notamment de l'eau, abolir la privatisation des ressources naturelles telles que le cuivre ou le lithium, accorder l'amnistie aux milliers de prisonniers politiques, mettre fin au régime de l'impunité policière et militaire, et j'en passe. Donc nous, on leur souhaite force et courage.
Et puis maintenant, un point sur la situation en Palestine.
Ouais, il y a 15 jours, on avait fait venir deux militants de la cause palestinienne au vu de la nouvelle entreprise en cours de l'État d'Israël contre les Palestiniens et Palestiniennes. Cette entreprise qui consiste une nouvelle fois à bombarder et assassiner des civils palestiniens et palestiniennes, notamment dans la bande de Gaza, sous couvert de lutte antiterroriste. L'État d'Israël l'a nommé pour cette année gardien des murailles. C'est la cinquième expédition militaire d'une violence rare que mène Israël en Palestine depuis 15 ans après, je cite, plus d'été en 2006, plomb durci en 2008-2009, pilier de défense en 2012 et bordure protectrice en 2014. Ce ne sont pas des guerres d'État à d'État, ce sont des massacres orchestrés par l'une des armées les plus puissantes et les mieux équipées au monde, Tsahal, disposant d'un appui permanent et sans limite des États-Unis, quel que soit le président au pouvoir, qui soumet Gaza à un blocus terrestre et maritime absolument terrible depuis 2007. En face, pas un char, pas un avion, pas un navire et pas de soutien extérieur ou presque, juste un peuple qui se défend. Cette nouvelle offensive, gardien des murailles donc, a d'ores et déjà provoqué la mort de 260 Palestiniens et Palestiniennes, principalement à Gaza, dont 66 enfants. Le 21 mai dernier, un cessez-le-feu a été acté entre le Hamas, qui dirige de fait la bande de Gaza depuis 2007, et Israël. Petit aparté d'ailleurs sur le Hamas, issu d'un article du Monde Diplomatique de ce mois-ci, que je vous conseille. Israël a intérêt à ce que le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne, continue à exister pour justifier ses interventions militaires. Netanyahou, Premier ministre, en a fait son interlocuteur privilégié depuis sa première accession à la tête du gouvernement en 1996 pour affaiblir l'autorité palestinienne et fragmenter le pouvoir entre Ramallah en Cisjordanie, c'est-à-dire le Fatah, et Gaza. C'est bien lui qui a autorisé le transfert de centaines de millions de dollars du Qatar à Gaza pour reconstruire le territoire dévasté par l'intervention militaire de 2014. Fin de la parenthèse. Quant au récent cessez-le-feu, c'est l'Égypte du dictateur sanguinaire Al-Sissi, pro-Israël, qui est censé veiller sur son respect. La vaste blague. On le sait, ce cessez-le-feu est peu respecté. Car si les frappes massives de l'État d'Israël sur Gaza ont cessé, la pression sur les Gazaouis s'est considérablement intensifiée, pendant que l'armée et les colons fascistes continuent de mettre la pression sur les Palestiniens dans plusieurs quartiers de Jérusalem-Est, dans un objectif non voilé de les expulser, encore et toujours, de leurs habitations et territoires historiques. Pour finir, on notera que, contrairement aux opérations meurtrières depuis 2006, les peuples arabes ont été très fortement mobilisés ces dernières semaines, d'une ampleur inégalée depuis la seconde intifada de 2000-2005, des centaines de milliers de personnes au Yémen, en Irak, mais aussi des mobilisations massives au Liban, en Jordanie, au Koweït, au Qatar, au Soudan, en Tunisie et au Maroc. Il serait grand temps que la cause palestinienne devienne l'une des priorités du mouvement social et révolutionnaire à travers le monde, et notamment en France.
Et dernier sujet à l'international, la catastrophe écologique au Sri Lanka.
Et oui, le plus grand désastre écologique du Sri Lanka est en train de sévir depuis deux semaines et l'incendie du porte-conteneur Express Pearl au large des côtes de cet état insulaire qui est situé au sud-est de l'Inde. Alors que s'est-il passé? Le 20 mai dernier, le Express Pearl quitte le port Sri Lanka de Colombo et prend feu peu après au nord-ouest de la capitale. De ce qu'on lançait aujourd'hui, l'incendie est probablement dû à une fuite puis à une réaction des produits chimiques transportés par le navire. Cinq jours plus tard, le conteneur explose et ce n'est qu'à ce moment-là que l'équipage est enfin évacué. Ce cargo, comme des milliers d'autres qui longent nos côtes jour et nuit, est un véritable cocktail explosif lancé à toute allure sur l'eau. Il contient principalement du plastique sous forme de billes et de résine, mais aussi des engrais, de l'acide citrique, du plomb ou encore du sodium méthoxyde hautement inflammable. Alors le Express Pearl était pourtant un bateau neuf qui a été mis en service en février 2021 et qui battait pavillon à Singapour. L'entreprise mère singapourienne était d'ailleurs au courant de la fuite qui sévissait sur son navire, mais a préféré, aux surprises, jouer avec le feu et la vie, plutôt que d'envoyer au Sri Lanka le matériel nécessaire à la réparation du navire, a voulu le faire venir à Singapour. Des tonnes de plastique se sont déjà déversées sur plus de 200 km des côtes du pays, et une grande partie, au moins un tiers, y restera pendant des millénaires. Du plastique qui va envahir et détruire les coraux, empoisonner les poissons, perturber toute la faune de cette partie de l'océan Indien. Et pendant ce temps, ce sont des tonnes de produits chimiques qui polluent et détruisent cet océan. Sur Terre, ce sont encore les plus pauvres qui vont payer le prix de cette nouvelle catastrophe écologique et industrielle. Puisqu'au Sri Lanka, ce sont environ 700 000 à 1 million de personnes qui dépendent de la pêche pour vivre et survivre tous les jours. Un peuple qui tente justement de s'organiser avec les moyens du bord et un courage hors normes pour nettoyer ses plages, mais aussi contre la lenteur de son gouvernement ultranationaliste et qui a, comme d'habitude, commencé par minimiser la catastrophe et a donc participé à l'aggraver. Vendredi dernier, le Centre pour la justice environnementale du Sri Lanka, l'Organisation nationale de solidarité avec la pêche et plusieurs syndicats de petits pêcheurs ont déposé plainte contre le gouvernement du Sri Lanka ainsi que contre le propriétaire singapourien du porte-conteneur. Les autorités sri lankaises sont très lentes à réagir et nous ne pensons pas que la justice va apporter d'elle-même les réparations aux personnes touchées par les dégâts, a expliqué l'un d'entre eux. Les revendications sont claires, l'estimation des dégâts, des compensations financières pour les habitants, habitantes et la communauté des pêcheurs et le nettoyage des zones affectées à la charge du propriétaire du navire. Même si le feu semble désormais maîtrisé, les 350 tonnes de fuel à bord du cargo continuent de couler lentement et font craindre une énorme marée noire. En effet, cette marée noire ferait monter le Express Pearl directement sur le podium des plus grandes marées noires de l'histoire du capitalisme industriel. Pour vous donner une idée, l'Erika, ce pétrolier qui s'était échoué au large de la France en 1999, avait déversé à peine 30 000 tonnes de pétrole, soit 10 fois moins. Bref, un porte-conteneur, symbole du capitalisme mondialisé et bourré de produits chimiques destinés à l'industrie, dans le cadre d'un commerce maritime dérégulé et très peu contraignant pour les grandes entreprises, du pétrole qui continue de couler dans les eaux et sur les plages, faisant craindre une marée noire imminente, une belle image du capitalisme actuel, avec des catastrophes à l'appel, des tenues de protection comme seul pansement et des peuples qui n'en peuvent plus de subir les conséquences et tentent de s'organiser. Espérons que la prochaine marée sera noire elle aussi, mais de colère.
Belle chute.
Bravo.
Maintenant, une petite pause musicale avec la rappeuse chilienne Luna Latina et son morceau Connection Directa.
Con ustedes, una trampa. Una vez más,
una trampa.
Escápese de eso,
una trampa.
Una latina, así es el la.
cuidado que es una trampa. Se roban tu energía, te quieren robar la calma. Pegao que envidia, así que mejor resbala. Tenemos medicina para tanta gente mala, para tanta doble cara. Cuidado que es una trampa. Se roban tu energía, te quieren robar la calma. Pegao que envidia, así que mejor resbala. Tenemos medicina para tanta gente mala, para tanta doble cara. Se creen con poder de enjuiciarme, aunque tuvieran la razón nunca podrían cambiarme. Apagarme solo Dios cuando quiera llamarme. Mi misión es hip hop, no venga ya a cuentearte. En el barrio hace falta más recursos y respeto. Códigos reales, no fake, no pleito. No fucking idols, ni querer ser primeros. Se necesita amor, no más violencia en el gueto. Competencia de flow, freestyle, pasión, breaking. Una sesión de hip hop me alinea mejor que el reiki. Baby, estamos claros que estoy clara, así que hagan correr la playlist. Que disfruten de mi viaje, mensajes de Luna MC. De una MC, skills de una mente crazy. Danzando with the evil para darle finish. Ya si vivo a lo kamikaze, ready para la misión hábil. De corazón no fear, poderosa los tsunamis. De huracán latina procede desde Viñana. Tú a mí me respeta o te hundes como el Titanic. Simple y fácil mi story, los tiempos avanzan rápido. Clásico que sonemos como queremos es un hábito. Entrenamos a diario, vivimos haciendo los méritos. Pa' merecer lo que soñamos, cumplirlo con éxito. Sin olvidar, agradecer las bendiciones. Abunda la salud, amor, prosperidad y los dones. Las condiciones que me han hecho crecer. Los fracasos, los ocasos y este nuevo amanecer. Un día a la vez, tal vez yo viva de a tres. Ataca el estrés, quemando la bles, matando a tu juez. Liberándote del veneno que te inyectan. Energías que proyectan, que de algún modo te afectan. Infectan y te conectan lo peor de tu persona. Reacciona, aléjate y que se jodan. No es broma que quieran absorber tu luz. Está acá para los vampiros, para los demonios cruz. Camino bien protegida, mi amuleto es mi actitud. Raptitud de por vida, de la cuna al ataúd. Raptitud de por vida, de la cuna al ataúd. Me siento bien protegida, mi amuleto es mi actitud. Mi amuleto es mi actitud. Cuidado que es una trampa. Se roban tu energía, se quieren robar tu calma. Pegao que es envidia, así que mejor resbala. Traemos medicina para tanta gente mala, para tanta doble cara. Cuidado que es una trampa. Se roban tu energía, se quieren robar tu calma. Pegao que es envidia, así que mejor resbala. Traemos medicina para tanta gente mala, para tanta doble cara. Para tanta gente mala, para tanta doble cara.
Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi.
Il est 19h27.
7 juin, il est 19h22. Et puis on est à peu près à l'heure. Et puis vous venez d'écouter la rappeuse chilienne Luna Latina et son morceau Conexión Directa.
Et puis maintenant, on va passer au jingle.
Jingle.
C'est le national.
C'est le national, ouais.
C'est le jingle national qu'on attend.
National.
Avec un sujet sur une patronne qui commandite l'assassinat d'un syndicaliste.
Et oui, décidément, le patronat est en mode impunité totale. Avec cette semaine, une histoire digne des plus belles séries B, un scénario tellement ubuesque qu'on a quand même du mal à y croire. Mais visiblement, la barbouzerie est toujours bien vivace en 2021. Alors notre petite histoire se passe dans l'Ain, au cœur de la Plastic Valley, c'est près de d'Oyonnax. La patronne de l'entreprise Apnil, Muriel Millet, a commandité donc l'assassinat d'un de ses salariés après qu'il a monté une section CGT. Figurez-vous qu'elle avait peur que la montée en puissance du syndicat nuise à l'esprit familial de la boîte. Bon, du coup, son esprit de famille à elle, hein, c'est un mélange de Brutus, Jean-Claude Roman et Xavier Dupont de Ligonnès. Puisque pour éviter de nuire à cet esprit de famille, elle a donc tenté de faire assassiner Hassan, le salarié qui s'était fait élire au CSE en décembre 2019. Pour ajouter un peu de piquant à cette histoire somme toute bien dégueulasse, les exécuteurs de ce contrat à 75 000 euros... quand même, hein, font tous deux partie d'une loge maçonnique. Ça devrait vous rappeler une histoire qui date de cet été où deux agents de la DGSE avaient été contrôlés devant la maison d'une coach en entreprise. L'enquête avait révélé qu'ils étaient en planque pour assassiner cette coach pour le compte d'un autre coach en entreprise. Alors, à la suite de cette interpellation complètement hasardeuse, hein, disons-le, une dizaine d'arrestations a permis de révéler un petit réseau d'intimidation, de surveillance, mais aussi d'assassinat au sein d'une loge maçonnique avec du beau monde, hein. Agent de la DGSE, spécialiste de la sécurité privée, un ancien commandant de la DCRI, etc. Et donc, parmi les contrats, il y avait l'assassinat de Hassan, délégué CGT, gilet jaune et visiblement trop grande gueule pour Muriel Millet, la patronne de APNIL. Au départ, elle avait juste demandé un audit de sécurité, dit-elle, hein, à cette donc mystérieuse officine, donc juste de la surveillance du salarié, tout ça bien sûr dans un esprit familial, d'amour et de bienveillance, à n'en pas douter. Puis bon, finalement, elle s'est dit autant le buter, hein, pour 75 000 euros, c'est pas grand-chose. Alors voilà, on commence à comprendre ce que c'est la famille, hein, pour Muriel Millet. Elle dirige en effet APNIL avec son frère, elle semble prête à tout pour défendre les intérêts de sa famille nucléaire et les privilèges de sa famille élargie, la bourgeoisie. C'est la haine de classe dans son plus simple appareil, cette haine meurtrière qui tue nos frères et nos sœurs chaque jour, victimes de patrons mafieux, cyniques, obsédés par leurs profits au détriment de la sécurité des travailleuses et des travailleurs. Ce cas extrême d'assassinat direct nous rappelle tous ceux, toutes celles et ceux qui meurent chaque jour partout dans le monde pour engraisser cette grande famille qu'est la bourgeoisie. En France, déjà 136 morts au travail en 2021. Pas besoin de faits divers comme celui-ci pour voir l'œuvre de mort du capitalisme. Quant aux patrons, aux réseaux de la bourgeoisie et de l'élite qui pensent avoir droit de vie et de mort sur celles et ceux qu'ils exploitent, on vous voit et on se vengera.
Eh ben, ça a bien changé, faites entrer l'accusé.
Et on continue avec un retour sur la manif Toutes aux frontières.
Voilà, samedi, c'était l'événement international Toutes aux frontières et on commence par écouter quelques prises de son sur place.
Alors aujourd'hui, c'est une journée de grand rassemblement féministe transnational qui a lieu à Nice. Et notre but, c'est à la fois d'élever la voix contre les politiques migratoires européennes qui sont criminelles et mortifères, et aussi de réclamer des droits spécifiques pour les motifs d'asile aux femmes, lesbiennes, trans et toute personne non conforme à l'ordre patriarcal. Alors aujourd'hui, c'est une grande marche qui va être longue et qui va être ponctuée de beaucoup de choses. Il y aura quatre arrêts. Donc à chaque fois, il y aura des paroles d'exilés. C'est elles qui prennent la parole aujourd'hui. Et la manifestation sera ponctuée d'animations artistiques. Il y aura des chorales. Il y aura une chanteuse colombienne qui s'appelle Saris Falcon. Une chanteuse corse, etc. Il y aura des batucadas. Voilà, on veut montrer que le mouvement féministe, il s'engage au niveau politique et solidaire et avec une façon de faire poétique. L'idée de cette manifestation vient d'un rassemblement de 2019 organisé par la Marche mondiale des femmes. Et donc, en Suisse, en 2019, s'étaient réunis beaucoup de collectifs européens. Et donc, en effet, c'est transnational parce que ce sont les collectifs européens qui veulent dénoncer les politiques migratoires européennes.
Féministe à vélo. On arrive de Marseille, on a fait 245 km pour venir.
Il y a écrit avec ou sans papier, féminisme transfrontière, toutes en grève. Du coup, on est un collectif, on est une assemblée féministe de Toulouse, donc on s'appelle Toutes en grève 31. Ouais. Et après, on fait partie d'une coordination nationale. Donc ça a été monté à l'initiative de Toulouse pendant le confinement l'année dernière. Et du coup, on a monté une coordination féministe avec plusieurs féministes.
Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche. Nous, on vient de Marseille, mais nous sommes partie de la Marche mondiale des femmes, d'un réseau international féministe, d'éducation populaire, antipatriarcale et anticapitaliste.
Alors, il y a marqué « Toutes citoyennes du monde » et « Gwynistan sans frontières ».
« Des terres et solidaires, sans patrie ni frontières ».
Alors moi c'est Cassiopée, je suis porte-parole du collectif Les Grenades, donc c'est un collectif féministe et inclusif.
Et du coup, bah, on est venu sur Nice pour participer et soutenir à fond le festival Tout aux frontières, parce que c'est vrai que c'est juste un scandale, la politique en France sur les migrants, et bah, particulièrement tout ce qui s'est passé en début d'année avec Génération Identitaire. On pense que c'est très important de faire justement des contre-manifs pour montrer que France Terre d'Accueil, ce n'est pas que un slogan, ça peut aussi devenir une réalité, et malheureusement réalité pour laquelle on est encore obligé de se battre, parce que c'est juste inadmissible que des personnes se fassent opprimer dans d'autres pays parce qu'elles sont femmes ou LGBTQIA, et donc il est hyper important qu'on se batte pour ces droits-là. Alors oui, nous aussi on lance une pétition actuellement sur les féminicides pour condamner l'État systématiquement dans le cadre où il y a eu dépôt de plainte ou suspicion de violence et que les armes n'ont pas été retirées, sachant qu'il y a, je crois, une vingtaine de femmes qui sont mortes cette année par arme à feu depuis 2021. C'est énorme, c'est beaucoup trop, et il est nécessaire qu'on ait une réponse systématique, qu'on mette aussi en place des centres d'hébergement d'urgence pour ces femmes, pour que justement elles puissent s'échapper de ces systèmes de violence, qu'il y ait des cellules spécialisées au sein des commissariats pour traiter ces plaintes, enfin qu'elles soient déposées, transmises et reçues, que aussi les personnes qui reçoivent et prennent les plaintes soient informées pour faire un accueil convenable et même juste décent à ces femmes. Et on a remarqué qu'en Espagne, la mise en place de ce genre de mesures a permis de diviser par deux le nombre de féminicides.
Ce samedi, se sont donc rassemblées à Nice plus de 3000 personnes pour une dénonciation féministe des frontières. On notera l'arrestation d'un groupe de colleuses qui ne seront relâchées qu'à la fin, alors que nous menacions de nous déplacer devant le commissariat. Plus tard, en cours de manifestation, la police a frappé et gazé les personnes qui ont solidairement réagi pour tenter d'empêcher une arrestation qui malheureusement a bien eu lieu. 25 heures de garde à vue pour celle-ci et pour au moins 5 autres personnes arrêtées après la manifestation, dont elles ressortent sans poursuite ni chef d'inculpation. Par ailleurs, au moins 2 amendes de 400 euros sont réclamées pour des graffitis effaçables. La consigne reçue par les forces de l'ordre était d'en finir avec ces féministes et ces étrangers, des mots prononcés par un policier. Aucune autre tentative de nuire à cet événement, c'était l'intervention par 2 fois de FAF qui cherchait à faire entendre leurs mensonges éhontés, comme quoi 95% des violeurs seraient des étrangers. Interventions qui ont rapidement et efficacement été repoussées. La manifestation reste un succès qui a permis de rassembler féministes et antifascistes de toute la France et même d'Europe, malgré la décision du préfet d'annuler tous les trains arrivant à Nice pour entraver évidemment la venue des manifestantes et manifestants. D'ailleurs, les Italiennes et Italiens qui souhaitaient nous rejoindre ont été refoulés illégalement à la frontière par la police française, et une personne qui était encore hier soir retenue à la PAF de Menton. Bref, cet événement a permis de confirmer que nous sommes bien nombreuses et nombreux à être à la fois contre les frontières et à la fois féministes. Et pour preuve que nos revendications sont légitimes et notre organisation nécessaire, Nice Matin titrait ce jour-là, le jour de la manifestation, dans les rues de la ville, un célèbre graffeur niçois incarcéré pour avoir tué sa compagne. Il est jugé demain. Et puis on va passer au local, en fait.
Tout à fait.
Local.
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 C'est vraiment notre meilleur jingle.
Il est vraiment bien celui-là.
Avec un témoignage qui nous vient du centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry, donc du CRA, donc de ces prisons pour sans-papiers, où à Lyon, il y a eu une grève de la faim qui a duré 2-3 jours. Et du coup, les personnes enfermées à l'intérieur, les prisonniers, nous racontent la situation.
Oui, bonjour. Est-ce que tu veux bien te dire un peu la situation en ce moment dans le CRA de Lyon ?
Alors, je vais expliquer ici. Franchement, on est dans un vrai tension, mais ça ne change rien du tout. C'est des tensions, c'est pire que des prisons, en fait. Et du coup, là, quand ça arrive, donc, il y a des gens, ils sont mélangés, il y a des gens, ils sont malades, ils prennent des médicaments. Et après, là, maintenant, ça commence, en fait, il y a du Covid dedans ici, il y a le cas, il y a avec moi un gars, il est positif de Covid, par rapport de médical, donc, rien du tout. Donc du coup, moi quand j'ai arrivé ici, je suis 2015 en fait, c'est pour, je veux juste comprendre pourquoi je suis ici. En fait, 2015, je suis toujours avec des papiers et règles en Suisse, voilà. Donc j'ai fait un bêtise, et je l'ai payé, donc c'est mon bêtise quand j'ai déjà fait, donc je l'ai payé, j'ai passé en prison. J'ai sorti en prison pour ils m'ont jamais parlé de le kit, ils m'ont jamais parlé de quoi ce soir. J'ai juste sorti et me dit libération, que je sortir dans libération, je me trouve dans un rétention. Donc ici, tu as le droit de rien du tout, tu es fermé dans les cages, et tu sors à 9h du matin, tu dors. Donc tu attends pour passer le ménage et là maintenant, aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui. Franchement, depuis 9h du matin, on est fermé. Les gens, ils veulent faire le toilette, ils veulent faire quelque chose, rien du tout. Ils sont en train de désinfecter, j'en sais pas quoi. Mais voilà. Donc voilà, c'était mon cas là maintenant pour moi. Ça fait 30 jours, il faut que l'attendre ici. Et en plus, 30 jours, c'est obligatoire à faire. Après, il y a encore 30 jours. Après, je veux passer quelqu'un d'autre aussi, il va parler.
Bah moi je vais vous expliquer un peu la situation ici. En fait c'est un peu compliqué. C'est une situation franchement que je souhaite à personne parce que on est enfermé, on est dans des cages. Au-dessus de nos têtes il y a des cages, sur les côtés c'est des cages. Partout on est comme à la SPA, sauf que il y a personne pour nous adopter. On est à la SPA mais il y a personne qui veut nous adopter. Au moins à la SPA ils ont une chance. Moi en fait ici on est enfermé. Et aujourd'hui, ils nous ont sorti à 9h. Jusqu'à maintenant, les portes, ils sont fermées. On n'a pas accès aux toilettes, on n'a pas accès à nos chambres, on n'a pas accès aux habits, on n'a pas accès à la douche. Et là, ça, depuis 9h du matin, ils nous sortent. Et là, on attend encore qu'ils ouvrent. Parce que soi-disant, ils nettoient, soi-disant, ils désinfectent. On a un cas de Covid qui était avec nous. On a un cas de Covid qui était avec nous, c'est lui-même qui s'est inquiété, il ne propose pas le test, c'est lui-même qui s'est proposé pour faire le test. Et du coup, il était positif et aujourd'hui, ils l'ont ramené, ils l'ont isolé. Mais parmi nous, mais pendant ce temps-là, il a joué avec nous aux cartes, on était tous ensemble, voilà, on est tous mélangés, donc nous aussi, on doit l'avoir, le Covid. Et on demande des dépistages, nous faire dépister, mais en fait, si on ne le demande pas nous-mêmes, ils le font pas. Il y a eu 3 cas et aujourd'hui il y a eu quelqu'un en fait qui a refusé. Ça faisait 80, ça fera 90 jours qui était là et ils l'ont ramené en prison aujourd'hui. Ça veut dire garde à vue et après c'est la prison.
Juste avant de se faire libérer, ils le remettent en prison.
Ils le remettent en prison parce que voilà, parce qu'il a refusé le test. Quand vous refusez le test, ils vous remettent automatiquement en prison. Mais après voilà, après au niveau de la bouffe, franchement la bouffe. C'est une cantine quoi, c'est le minimum, c'est le minimum, mais on prend ce qu'il y a. Hein. On prend ce qu'il y a, après on a une machine pour acheter des sandwichs, mais tout le monde n'a pas d'argent.
Et est-ce qu'on a appris qu'il y avait eu un ou deux jours de grève de la faim là, la semaine dernière? Est-ce que tu peux m'en parler un peu?
Oui, exactement, il y a eu une grève de faim, c'était le 24 je crois, ou le 23, je ne me rappelle plus. On avait fait 2 jours de grève, mais malheureusement, les gens, ils ont arrêté parce qu'au bout d'un moment, ils ont vraiment faim. Ils ont faim, c'est pas, ils ont pas d'argent. La plupart des gens, ils ont pas d'argent. Ils ont arrêté parce qu'ils étaient faibles. Ils sont malades. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui, on voyait que ça changeait rien, que ça bougeait pas.
Ce qui s'est passé en vérité, je vais pas vous mentir, c'est la merde. On a des cas de Covid qui ont été déclarés aujourd'hui. Et les conditions dans lesquelles nous sommes ici, c'est un peu très, très rudimentaire. Et à chaque fois, dès que vous passez 90 jours, ils vous envoient 2 mois de prison automatiquement. Et en fait, le but, c'est de nous menacer, nous expulser. Donc, on n'essaie même pas d'avoir de la parole. Du moment où on essaie de réclamer quoi que ce soit, ils commencent à frapper certains détenus aussi qui sont un peu schizophrènes. Parce qu'on a des schizophrènes aussi avec nous.
Et le médecin, il dit quoi par rapport à ça?
Ben, les médecins, vous savez, ils sont pas avec nous. Donc, du coup, ils sont dans leur bureau. Ils savent vraiment pas ce qui se passe. Bon, ils sont dans leur coin. Sauf quand quelqu'un est malade, mal aux dents, n'importe quoi, c'est des doliprane, quoi. Et après, ils essaient de les donner aussi des... Je vais pas vous mentir, hein, ils les donnent aussi beaucoup. Ce qui les prescrit aussi beaucoup, c'est des... Comment ils appellent ça déjà
Des anxiolytiques.
Des calmants, là, anxiolytiques, voilà. Ils shootent la plupart des personnes. On a essayé de faire une grève de la faim, ils sont venus regarder, parce qu'il y a des portes cassées. On a fait une grève de la faim, ils ont regardé que les portes, ils les ont changées jusqu'au bout. Les lumières dans les chambres, dans les salles de bain, c'est... ça marche plus. Bah, écoutez, et en plus, il y a des personnes limite très très malades qui, selon nous, je pense même pas qu'ils sont en condition d'être, d'être en rétention, mais ils s'en foutent, quoi.
Voilà, c'était le témoignage de trois prisonniers du CRA de Lyon-Saint-Exupéry qui ont parlé de leur grève de la faim et des conditions de détention. Donc n'hésitez pas à les soutenir, à les appeler directement à l'intérieur du CRA et vous retrouverez ces témoignages sur le site Lyon Anti-CRA ou bien Crame ton CRA. Et on passe maintenant à la dernière partie de notre émission.
Et oui, c'est l'interview, puisque ce soir on reçoit Camille, Luc et Daphné qui sont accompagnants d'élèves en situation de handicap. Militants et militantes à Sud Éducation et mobilisés en ce moment pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci d'être venu.
Merci de nous avoir invités.
Et avant de parler de la mobilisation qui a eu lieu cette semaine, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer un peu ce que c'est le métier d'AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap, et nous parler un peu de vos conditions de travail?
Donc le métier d'AESH, on suit les élèves en cours, on les accompagne dans les actes de la vie quotidienne, de leur vie sociale et de la vie scolaire. Donc on est à côté d'eux, on a plusieurs élèves à suivre en général. Et justement, quand on parle de nos conditions de travail, c'est un des gros points d'achoppement actuellement, parce que le nombre d'élèves qu'on a à suivre augmente et le nombre d'heures qu'on a par élève baisse drastiquement.
D'accord, parce que vous avez combien d'heures par élève ?
Donc à l'heure actuelle, on est sur une moyenne inférieure à 5 heures par élève, ce qui ne permet pas de les accompagner justement correctement.
Ok, et le métier d'AESH est exercé par qui principalement dans l'éducation nationale ?
Donc il est principalement exercé par des femmes à un peu plus de 96% au niveau national. Et il y a moins de 1% des AESH qui sont à temps plein. Tout le reste sont en moyenne à 66%.
Ce qui représente, parce que le temps plein, donc c'est un 24 heures par semaine, et avec ce temps de travail, vous avez le temps de...
Non, le temps plein, ce n'est pas 24 heures par semaine, ça correspond à 66% de temps, d'accord. Et on a très peu de temps plein, parce que 24 heures par semaine, ça correspond grosso modo aussi au nombre d'heures de cours en école primaire.
Et donc, par rapport à vos conditions de travail, quelles sont les revendications actuelles de la mobilisation avec, où il y a eu donc une journée de grève cette semaine, dont on parlera un peu plus tard?
Alors du coup, peut-être juste pour détailler un tout petit peu plus les conditions de travail, on a parlé des 26 heures de le temps de travail majoritaire sur l'académie, c'est 26 heures face élève, et ça c'est pour 26 heures face élève, c'est 825 € par mois qu'on gagne. Dans ces 26 heures face élève, tout le temps de travail qui ne peut pas être fait face aux élèves est à ajouter à ces 26 heures. Donc en fait, les 825 € par mois, notre salaire de 825 € par mois, c'est 26 heures face élève plus tout le temps qu'on va passer à préparer notre travail d'accompagnement. Et du coup, c'est directement en lien avec nos revendications. La revendication... on revendique un salaire qui nous permette de vivre dignement. Là, les 825 € par mois, en fait, c'est sous le seuil de pauvreté. On ne peut pas vivre dignement avec 825 € par mois. J'ai un collègue qui, en début d'année, a dû démissionner de son poste parce qu'il ne pouvait plus se loger à Lyon avec 825 € par mois. Donc, on revendique bien sûr un vrai salaire. La revendication de Sud-Éduc, c'est un salaire à 1 700 € par mois. C'est ce qui correspond aussi à la revendication du SMIC pour tous et toutes. Et pourquoi ce salaire à 1 700 € par mois? Ça vient de plusieurs choses, et notamment l'Observatoire national de la pauvreté qui chiffre en fait le coût de la vie par mois à 1 510 €. Et donc on voit bien qu'avec nos 825 € par mois, en fait, on est bien en dessous. Et en fait, le salaire d'AESH, c'est un peu ce que disait Luc juste avant, il est un peu considéré comme un salaire d'appoint, parce que les AESH, c'est majoritairement des femmes. Et donc, du coup, on considère que en fait, le salaire amené par la femme AESH, elle vient compléter le salaire du conjoint, quoi, en gros. Et du coup, un salaire, on revendique un salaire décent qui nous permette de vivre et qui aussi reconnaisse nos compétences professionnelles.
Oui, c'est-à-dire pour reconnaître nos compétences professionnelles, on demande un statut dans la fonction publique, donc qui correspond à ce salaire et qui correspond surtout aux tâches qu'on effectue au quotidien, donc ce sera un statut de catégorie B, qui correspond aussi un petit peu aux tâches qui sont effectuées dans le médico-social. Donc on revendique un métier avec ce statut, qui va avec ce statut, donc un métier d'accompagnant scolaire, d'éducateur scolaire, parce que à l'heure actuelle, on est beaucoup attaqué là-dessus aussi. L'État, le rectorat, ne veut pas reconnaître les tâches qu'on effectue au quotidien auprès de ses enfants.
Et peut-être ce qui va avec ça, c'est aussi le temps de travail. Le temps de travail, on revendique aussi un temps plein à 24 heures d'accompagnement, temps plein qui permet à 24 heures qui permettrait de reconnaître tout le travail qu'on fait à côté du travail qui est fait face élève. Et d'ailleurs, ce temps plein à 24 heures d'accompagnement, c'est-à-dire cette reconnaissance du travail qui est fait à côté du temps d'accompagnement, il est mentionné dans le rapport parlementaire de Ruffin et Bonnel sur les métiers du lien. Et voilà, donc c'est une revendication syndicale, une revendication des collègues, mais qui trouve écho aussi à d'autres niveaux.
Et derrière tout ça, il ne faut pas oublier quand même que c'est derrière nos revendications, elles sont aussi intimement liées avec la problématique du handicap. C'est-à-dire quand on revendique un statut, quand on revendique un salaire décent, c'est parce qu'on estime que les enfants qu'on accompagne, ils ont le droit d'avoir des gens qui ont un véritable métier et un véritable statut pour les accompagner. De la même façon, une de nos grosses revendications est sur la formation, parce qu'on estime aussi que les élèves que l'on suit, ils ont le droit d'avoir des gens correctement formés avec un vrai métier pour les accompagner. C'est pas seulement, y a un côté bien sûr que c'est pour nous et pour notre qualité de vie, mais c'est aussi parce que le handicap, la plupart des AESH, même tous les AESH, l'ont vraiment à cœur.
Et puis peut-être ce qui est particulier sur cette année depuis la rentrée, c'est la généralisation des PIAL. Alors les PIAL, c'est pôle inclusif d'accompagnement localisé. En fait, c'est des groupements d'écoles et établissements scolaires. Et en fait, nous, depuis la rentrée, là, on est affectés sur ces groupements d'écoles et établissements scolaires. C'est-à-dire que les années précédentes, en fait, on était recrutés par un établissement, affectés sur un établissement ou deux établissements max, et on ne bougeait pas en cours d'année. Là, maintenant, comme on est affecté sur un pôle, en fait, on peut nous changer d'établissement du jour au lendemain et sans avenant à notre contrat de travail, ce qui augmente les temps de trajet, les temps de travail en dehors des temps d'accompagnement, ce qui augmente bien sûr la pression, le stress chez les collègues, parce qu'en fait, du jour au lendemain, toute notre organisation professionnelle, elle peut être modifiée, et donc on ne peut plus organiser notre vie personnelle, notre vie familiale, on ne peut plus... c'est compliqué d'avoir un deuxième boulot, parce que, comme on disait tout à l'heure, 825 euros par mois, ça ne nous permet pas de vivre, donc il y a des collègues qui prennent un deuxième boulot, et avec ces PIAL qui peuvent nous changer d'affectation du jour au lendemain, et ben avoir un deuxième boulot, c'est compliqué. Et donc, on revendique, bien sûr, l'abandon des PIAL.
Oui, c'est à l'heure actuelle notre principale même revendication.
Et comment ça se manifeste, ces conditions de travail dégradées parmi les AESH ?
Alors, comment ça se manifeste ? Concrètement, c'est une augmentation du nombre d'élèves à suivre par AESH et donc une réduction par rebond du nombre d'heures d'accompagnement par élève. C'est aussi une multiplication donc des temps de travaux invisibles. Et c'est concrètement, ça empêche ces PIAL, en fait, nous mutualisent de plus en plus et font qu'à l'heure actuelle, il y a 25% des AESH qui sont en arrêt de travail sur l'académie. Et si je ne me trompe pas, la moyenne nationale sur les AESH, c'est seulement 6%, 7% d'arrêt de travail, quelque chose comme ça. Et là, on est 25% sur l'académie. Donc c'est énorme, ça correspond aux chiffres qu'il aurait pu y avoir, par exemple, aux pires heures d'Orange, quand on a eu cette grande vague de suicides, là, 25%, mais c'est inimaginable, quoi.
Et puis aussi, on reçoit beaucoup de témoignages de collègues qui sont épuisés, qui sont découragés, qui n'en peuvent plus. Et il y a beaucoup plus de démissions cette année que les années précédentes.
Ok, du coup, pour parler de perspectives un peu plus réjouissantes, cette semaine, il y a eu une journée de grève nationale jeudi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé et l'inscrire peut-être un peu dans l'historique de la mobilisation des AESH?
Alors, cette journée de mobilisation nationale sur Lyon, c'est la cinquième fois qu'on se rassemblait devant le rectorat de Lyon. Il y a eu une première journée de mobilisation en novembre, puis en février, en mars, en avril, et donc là, c'était la cinquième. Ce qu'on remarque, nous, c'est qu'il y a une vraie montée en puissance des mobilisations des collègues AESH sur l'Académie. Le rassemblement de ce jeudi était vraiment réussi, plein d'énergie. Beaucoup de collègues se sont déplacés, et pourtant, c'est la fin de l'année, il y a tous les examens. On est vraiment contente de ce rassemblement et de cette énergie qu'il y a eu devant le rectorat jeudi.
D'un côté, très content de la mobilisation. D'un autre côté, ça laisse aussi sous-entendre dans quel état sont les AESH. Parce que si la mobilisation a été réussie, c'est aussi qu'ils souffrent énormément en amont. Et donc, c'est aussi un marqueur qui je trouvais notable.
Et sur Lyon particulièrement, donc la grève était nationale ce jeudi, il y a eu je crois 1500 personnes mobilisées à Paris, mais sur Lyon en particulier, vous faites partie d'un collectif, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous expliquer comment il s'est formé ?
Alors ce collectif, il s'est monté en janvier de cette année. En fait, il faut remonter un tout petit peu en arrière à la première date de mobilisation de l'année dont je parlais, qui était le 27 novembre. En fait, le 27 novembre, il y a 26 collègues AESH qui sont passés en commission
disciplinaire,
commission qui devait se prononcer sur leur licenciement. En fait, ces collègues, on n'avait rien à leur reprocher. C'était des collègues qui étaient expérimentés, c'était des collègues qui faisaient le boulot. Et en fait, la seule chose, c'est qu'ils et elles n'ont pas voulu signer l'avenant qui les faisait rentrer dans le PIAL pour toutes les raisons qu'on a expliquées avant. Et pour cette raison, les collègues ont été licenciés. Donc le 27 novembre, il y avait un rassemblement de soutien pour ces collègues et aussi de colère, pour dire notre colère contre les PIAL. Et c'est un rassemblement qui a rassemblé beaucoup de collègues à AESH. Et dans l'idée de justement combattre l'isolement structurel de notre métier, de se rassembler, pouvoir s'informer sur nos droits, de pouvoir mieux nous défendre, on a eu envie de créer ce collectif. Donc c'est un collectif d'AESH, parce qu'on pense que pour visibiliser la lutte des AESH, il faut que ça soit fait par les AESH eux-mêmes et elles-mêmes. Et le but, c'est ça. Le but, c'est de combattre l'isolement, de se rassembler, de s'informer sur nos droits, de mieux se défendre et de lutter pour avoir de nouveaux droits, bien sûr.
D'accord. Et quelles sont les prochaines dates de mobilisation, les perspectives ? Comment ça va se passer suite à cette journée de grève nationale de jeudi dernier ?
Donc, suite à cette journée qui a été très réussie, pour l'instant, nous n'avons pas de date à annoncer. La fin de l'année arrive, c'est-à-dire que c'est aussi l'époque où il y a tous les diplômes qui se passent. Donc, c'est quand même une période très compliquée pour faire grève, où on se sentirait quand même pas de priver nos élèves d'AESH pendant leurs examens. Il y a peut-être une date en début d'été, parce que c'est à cette époque-là qu'on reçoit nos affectations. Et cette année, on n'a pas eu le droit d'émettre des vœux, on a juste eu le droit d'émettre des souhaits, parce que les vœux, c'est engageant juridiquement pour le rectorat. Donc cette année, ils nous ont passé que des souhaits. Donc comme il y a un gros manque du nombre d'AESH, on est quand même très inquiet sur les affectations pour ce début. Donc on va voir comment ça va se passer. Et de toute façon, sinon, ce sera pour la rentrée. Ce sera certainement très rapidement pour la rentrée, parce que les problèmes n'auront pas disparu. Alors, est-ce que ça sera que les AESH ? Qu'est-ce que ce sera un mouvement qui englobera tous les précaires de l'éducation nationale ? On n'a pas encore toutes les modalités, mais on ne compte pas lâcher l'affaire.
Et puis peut-être, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'il nous semble important que... En fait, les conditions de travail des AESH, elles ne concernent pas que les AESH, elles concernent aussi les collègues dans les établissements et bien sûr les élèves et les familles et les parents. Et je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, on aimerait bien que les familles se mobilisent, que les collègues se mobilisent et qu'il faut qu'on se mobilise tous, tout ensemble autour des conditions de travail des AESH. Pour leur amélioration et aussi pour l'amélioration de l'accompagnement des élèves.
Il faut voir, depuis 2 ans, on a été une douzaine de fois au rectorat en audience, donc on s'est heurté à un mur de mépris systématiquement. On a, pour certains d'entre nous, témoigné aux commissions parlementaires, on a rempli des dossiers pour informer les députés. Donc il y a eu ce rapport parlementaire qui a abouti sur des propositions d'amendements pendant la loi du budget en décembre 2020. Et La République En Marche a voté contre tous ces amendements. Donc toutes les possibilités de discours, je pense, ou de discussion, on les a arpentées, on a essayé de les prendre. Donc maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose, c'est le bras de fer. Il faut rentrer dans le rapport de force et c'est la seule manière qu'on aura de se faire entendre.
Ok, et pour augmenter le rapport de force, comment les gens qui veulent vous rejoindre ou vous soutenir peuvent vous contacter ou quelle forme peut prendre leur soutien ?
Eh ben, pour contacter Sud-Éduc-Rhône, il y a l'adresse email que vous retrouvez facilement sur le site internet, c'est sudeduc69@sud-arl.org. Et pour contacter le collectif AESH, dans lequel on vous accueille avec grand plaisir, c'est collectif aesh69@protonmail.com.
On remettra bien entendu les coordonnées du collectif sur le blog de l'émission, le blog des Canu Info. Et si vous n'avez rien à ajouter, on vous remercie d'être venu.
Merci beaucoup.
Vous remercions.
Et on va finir l'émission avec le traditionnel agenda de la semaine. Un premier rendez-vous mercredi 9 juin. Pour lutter contre les licenciements abusifs et politiques d'Amazon, ça sera à partir de 18h à Saint-Priest, devant Amazon, donc 913 avenue des Temps Modernes à Saint-Priest. Un deuxième rendez-vous, ça sera vendredi, pour rencontrer l'auto-école de Lyon, qui continue de rouler et qui reprend ses réunions mensuelles. Ça sera jeudi, le 18 mars à 16h. Et pour savoir le lieu, il faut envoyer un mail à 02conduite@riseup.net. Enfin, on aura la chance de pouvoir rencontrer l'anthropologue Jules Falquet vendredi 11 juin à 18h30 à l'annexe de l'ECG, 27 rue Salomon Reynac. Elle vient dans le 7e arrondissement. Elle viendra nous parler des conséquences de la crise pandémique sur le continent latino-américain en particulier. Et on pourra la retrouver, donc l'anthropologue Jules Falquet, encore une fois. Ça sera le 12 juin à 15h à l'espace communal de la Guillotière, à la même adresse, pour parler cette fois-ci de son dernier ouvrage qui s'appelle « Imbrication, femmes, races et classes dans les mouvements sociaux ». Et puis un dernier événement aura lieu dimanche, ça sera à 14h30 à l'Illégalité, 6 rue de l'Égalité à Villeurbanne, pour parler de la question palestinienne et pour faire un rapide panorama des résistances en cours et des solidarités internationales. Donc rendez-vous dimanche à 14h30 à l'Illégalité. Et nous on vous dit à lundi prochain.
À lundi prochain, c'était le Canu Info du lundi 7 juin.
avant eux. Avant les cupelés, la fleur, l'oiseau et nous étions en liberté. Mais ils sont arrivés et la fleur est en peau et l'oiseau est en cage et nous en numéro. Car ils ont inventé prison et condamné.